Je souhaiterais vous remercier, chère Madame Duviard, pour vos aimables mots d'introduction. Elegie für Marina. O, die Verluste ins All, die stürzenden Sterne, wir vermehren es nicht, wohin wir uns werfen, zu welchem Sterne hinzu. Im Ganzen ist immer schon alles gezählt. So auch wer fällt, vermindert die heilige Zahl nicht. Jeder verzichtende Sturz stürzt in den Ursprung und heilt. Wäre denn alles ein Spiel, Wechsel desgleichen, Verschiebung, nirgends ein Name und kaum irgendwo heimisch, Gewinn. Wellen, Marina, wir Meer, Tiefen, Marina, wir Himmel, Erde, Marina, wir Erde, wir tausendmal Frühling, wir Lerchen, dir ein ausbrechendes Lied in die Unsichtbarkeit wirft. Wir beginnen es als Jubel, schon übertrifft es uns völlig, plötzlich unser Gewicht biegt zur Klage den Sang, abwärts. Aber auch so, Klage, wäre sie nicht jüngerer Jubel nach unten? Auch die unteren Götter wollen gelobt sein, Marina. So unschuldig sind Götter, sie warten auf Lob wie die Schüler. Loben, du Liebe, lass uns verschwenden mit Lob. Nichts gehört uns. Wir legen ein wenig die Hand um die Hälse ungebrochener Blumen. Ich sah es am Nil in Kom-Ombo, so, Marina, die Spende selber verzichtend, opfern die Könige. Wie die Engel gehen und die Türen bezeichnen, jener zu Rettenden, also rühren wir dieses und dies scheinbar Zärtliche an. Ach, wie weit schon entrückte, ach, wie zerstreute Marina, auch noch beim innigsten Vorwand, Zeichengeber, sonst nichts. Dieses leise Geschäft, wo es der Unsrigen einer nicht mehr erträgt und sich zum Zugriff entschließt, rächt sich und tötet. Denn, dass es tödliche Macht hat, merken wir alle an seiner Verhaltung und Zartheit und an der seltsamen Kraft, die uns aus Lebenden zu Überlebenden macht. Nichtsein, weißt du's, wie oft trug uns ein blinder Befehl durch den eisigen Fuhrraum neuer Geburt, trug uns einen Körper aus Augen unter zahllosen Lidern sich weigernd, trug das in uns niedergeworfene Herz eines ganzen Geschlechts. An der Zugvogelziel trug er die Gruppe, das Bild unserer schwebenden Wandlung. Liebende dürften, Marina, dürften so viel nicht von dem Untergang wissen, müssen wie neu sein. Erst ihr Grab ist alt, erst ihr Grab besinnt sich, verdunkelt unter dem schluchzenden Baum, besinnt sich auf jeher. Erst ihr Grab bricht ein, sie selber sind biegsam wie Ruten, was übermäßig sie biegt, ründet sie reichlich zum Kranz. Wie sie verwehen im Maiwind, von der Mitte des Immer, drin du atmest und ahnst, schließt sie der Augenblick aus. O, wie begreif ich dich, weibliche Blüte am gleichen unvergänglichen Strauch, wie streu ich mich stark in die Nachtluft, die dich nächtens bestreift. Früher erlernten die Götter, Hälften zu heucheln. Wir, in das Kreisen bezogen, füllten zum Ganzen uns an, wie die Scheibe des Monds. Auch in abnehmender Frist, auch in den Wochen der Wendung, niemand verhülfe uns je wieder zum Vollsein, als der einsame eigene Gang über der schlaflosen Landschaft.
J'ai oublié de vous signaler que voilà, donc les points d'épargne, c'est une édition bilingue. Vous avez le côté, le texte allemand, le côté du texte français que je vais vous lire maintenant dans la traduction de Philippe Jacotet. Élégie à Marina Tsvetaeva. Ces pertes dans le tout Marina. Ces étoiles qui croulent, où que nous nous jetions, vers quelle étoile, nous ne la croissons pas. Le compte est toujours déjà clos. Ainsi, qui tombe ne diminue pas le chiffre infin. La chute renonçante choix dans l'origine et là guérit. Tout ne serait-il donc que jeu, change d'humaine ou transfert, et nulle part un nom, la place à peine d'un intime gant? Nous vagues, Marina, et mer, nous profondeur et ciel, nous terre, Marina, et printemps mille fois ces alouettes que l'irruption du chant jette dans l'invisibilité. Nous l'étonnons en joie, déjà il nous a dépassés, et soudain notre poids rabat en plainte le chant. Mais la plainte n'est-elle pas joie cadette inversée? Les dieux d'en bas aussi veulent être loués, si naïfs qu'ils attendent, comme l'écolier, l'éloge. De la louange aussi, laisse-nous autres être prodigues. Rien n'est à nous, à peine si nous entourons de notre main le col des fleurs incueillies. J'ai vu cela au bord du Nil, à Combombo. Les rois, se renonçant, versent ainsi la libation. Comme les anges marquent lui de qui doit être sauvé, c'est ainsi qu'apparemment tendre, nous touchons ceci ou cela. Ah, déjà emporté si loin, Marina, si distrait, même sous le plus profond prétexte. Faiseur de signes, rien de plus. Ce commerce léger, quand l'un de nous ne s'arrange plus et se décide à prendre, se venge et tue. Qu'il ait pouvoir de mort, en effet, nous l'avions tous compris à voir sa tendre retenue et à la force étrange qui fait de nous vivants des survivants. Non-être. Sais-tu combien de fois un ordre aveugle à travers l'antichambre glacée de nouvelles naissances nous porta, nous, un corps fait Dieu sous des paupières innombrables, disons non, porta le cœur terrassé de toute une race en nous, vers quelques buts de migration, porta le vol, l'image aérienne de nos changements. Les amants ne devraient, Marina, n'ont pas le droit d'en savoir trop sur le déclin. Il leur faut être neufs. Leur tombe seule est vieille. Leur tombe seule, de plus en plus sombre, sous l'arbre sanglotant, se rappelle à jamais. Leur tombe seule casque. Eux sont souples comme l'osier, l'outrance qui les ploie, les tresse en riche couronne. Comme ils s'effacent dans le vent de mai, du centre du toujours, où tu devines, tu respires, l'instant les exclut. Comme je vous comprends, ô féminine fleur sur le buisson toujours le même, et me répond de force dans l'air de la nuit qui va vous effleurer. Les dieux ont tout appris à feindre des moitiés. Nous, inscrits dans l'orbite, nous sommes devenus pleins comme le disque de la lune. Même à la phase décroissante ou semaine du tournant, nul qui puisse nous rendre à la plénitude, sinon, non pas, seul, au-dessus du paysage sans sommeil.
Alors d'abord, j'aimerais exprimer mes plus sincères remerciements pour cette invitation à venir prendre la parole ici, à la Fondation Rilke, dans le cadre de cette rencontre poétique de Marina Tsvetaeva. Je me réjouis beaucoup de pouvoir maintenant exposer quelques réflexions sur l'élégie à Marina de Rainer Maria Rilke. Pour comprendre cette élégie, pour apprendre en quelque sorte le langage et le cadre idiomatique dans lesquels cette élégie a été rédigée, il est indispensable de regarder plus en détail la correspondance entre Rilke et Tsvetaeva, dont l'élégie constitue le centre et le point culminant. La correspondance entre Rainer Maria Rilke et Marina Tsvetaeva est une conversation poétique à propos du langage de la poésie. Les lettres écrites principalement en allemand, mais aussi par endroits en français et russe, évoluent dans cette conversation d'une langue à l'autre et se caractérisent par un mimétisme épistolaire au sein duquel Rilke comme Tsvetaeva adaptent mutuellement leur style à celui de l'interlocuteur. L'édition de la correspondance constituée est richement commentée par Konstantin Azodowski, qui est également disponible en français. Le beau catalogue de l'exposition Amitié russe Rilke Tsvetaeva Pasternak, qui s'est tenu en 2006 ici à Sierre, ainsi que tout un ensemble de résultats de recherche ont déjà expliqué en détail le contexte et l'intertexte de la correspondance. Dans ce qui va suivre, je ne commenterai donc pas la correspondance de manière détaillée. J'aimerais plutôt mettre en avant quelques caractéristiques qui ne concernent pas principalement les circonstances personnelles de la rencontre épistolaire, mais la poétique dessinée dans les lettres. Au centre de cette poétique épistolaire, cependant, on trouve également et surtout la personne et le nom, raison pour laquelle on ne peut présumer d'une séparation nette entre lettres personnelles et poésie impersonnelle. Les lettres parlent à la fois et parfois de fait dans un même souffle de choses personnelles et de poésie. À la suite de cette poétique des lettres, je présenterai dans un deuxième temps quelques réflexions sur l'élégie dédicacée à Tsvetaeva, l'élégie que Rilke couche sur le papier le 8 juin 1926 au château de Musotte et choix une lettre pour Tsvetaeva écrite le même jour. Ce faisant, une lecture de l'élégie peut dépasser le cadre biographique et néanmoins se concentrer sur ce qui est apporté à la langue dans la correspondance. Car le poème est aussi personnel que les lettres sont poétiques. La correspondance débute avec la lettre de Rilke du 3 mai 1926 et son envoi le même jour d'un exemplaire dédicacé à la main des élégies de Duino et des sonnettes à Orphée et se termine avec la carte postale de Tsvetaeva du 7 novembre 1926 contenant les quatre lignes « Lieber Rainer, hier lebe ich, ob du mich noch liebst, Marina. Cher Rainer, c'est ici que je vis, m'aimes-tu encore, Marina ?» Suivi seulement d'une adresse et de la date. Même cette dernière carte postale, restée sans réponse, contient encore quelques éléments essentiels de la correspondance dans leur forme presque la plus courte possible. Les deux noms, Rainer et Marina, la question à propos de son amour pour elle, de même que l'indication insistante du lieu et de la date de la rédaction. Ces éléments ne sont pas simplement énumérés dans les lettres, ils ne sont pas seulement une composante des lettres, ils y réfléchissent également. Le cadre de la correspondance inclut d'autres auteurs, comme Azotowski l'a montré dans le détail. Une lettre de Léonid Pasternak à Rilke précède la conversation épistolaire entre Rilke et Tsvetaeva. Lettre qu'il lui envoie un peu après son 50e anniversaire en décembre 1925, et dans laquelle il décrit son fils Boris Pasternak, comme un admirateur des plus ardents de l'œuvre de Rilke. Celui-ci répond en mars 1926 et rappelle aussi bien l'ancienne Russie de ses voyages qui, comme il l'écrit, lui est resté proche, cher et sacré. Qu'il apporte l'exil de la famille Pasternak et esquisse le mythe d'une véritable Russie incarnée, selon Rilke, par les exilés. Ce portrait complètement mythifié de la situation d'exil est contredit par la rencontre réelle avec des émigrantes et émigrants à Paris à 1925. Rilke mentionne que c'est justement là-bas qu'il est entré en contact avec la poésie de Boris Pasternak, resté en Russie, à savoir dans une anthologie russe d'Ilia Ehrenburg et dont la traduction française de deux poèmes parus dans la revue Commerce de Paul Valéry. Pasternak apprend cela par une lettre de son père, le jour même où il reçoit par des moyens détournés le poème de la fin de Tsvetaeva. Je cite un poème écrit avec une vérité, une authenticité dont aucun de nous aujourd'hui en URSS, comme il le remarque, n'est capable. Pasternak saisit cette coïncidence au vol pour prier Rilke par écrit d'envoyer les élégies de Duino à Tsvetaeva. Cette demande honorée par Rilke marque le début de la correspondance entre eux deux. La première lettre de Rilke commence avec la formule d'appel « Liebe Dichterin, chère poétesse », qui paraît adaptée dans la mesure où Rilke écrit à Tsvetaeva la poétesse et non pas à la personne qu'il ne connaît pas. Après l'ancrage du poétique comme cadre, un ton caractéristique peut se déployer dans la suite de la correspondance, une structure idiomatique poétique des noms propres des auteurs. Dans la première lettre, cette importance particulière des noms rejoint une importance particulière de l'écriture. Rilke écrit les noms de Léonid et Boris Pasternak, de même que le nom Marina Ivanovna Tsvetaeva, en caractère cyrillique, dans une lettre rédigée par ailleurs en caractère latin et en allemand. Dans sa réponse, Tsvetaeva aborde ce Schriftwechsel, cette alternance d'alphabet, avec emphase lorsqu'elle écrit des caractères russes, l'émotion. L'importance de la langue dont la correspondance naît dans ces quelques caractères et sons isolés. Il ne s'agit pas de dialogue entre poètes qui se comprennent presque sans rien dire, c'est plutôt la mise en relief de la langue et celle des noms en particulier qui est déjà clairement visible dans cette réponse, la première lettre de Tsvetaeva à Rilke. Cette lettre débute par une invocation, le nom Rainer Maria Rilke, garni de points d'exclamation, prolongé d'une réflexion sur ce nom. Rainer Maria Rilke, darf ich Sie so anrufen? Sie, die verkörperte Dichtung, müssen doch wissen, dass Ihr Name allein ein Gedicht ist. Rainer Maria, das klingt kirchlich und kindlich und ritterlich. Ihr Name reimt nichts mit der Zeit, kommt von früher oder später, von jeher. Rainer Maria Rilke, puis-je vous interpeller ainsi, vous, la poésie personnifiée, ne pouvez pas ne pas savoir que votre nom, à lui seul, est un poème. Rainer Maria, des sons qui évoquent église, enfance, chevalerie, votre nom ne rime pas avec l'époque, il vient d'avant ou d'après, de toujours. Tsvetaeva voit Rilke comme la poésie personnifiée, ou comme on lit ensuite la poésie même. Comme si elle mettait spontanément au même niveau Rilke et l'Orphée, des sonnettes à Orphée, qu'elle recevra d'ailleurs seulement un jour plus tard de la part de Rilke avec les élégies de Duino. Tsvetaeva essaie de justifier cette hyperbole à partir du nom Rainer Maria Rilke, qui serait déjà un poème en soi. Elle décrit la sonorité du nom et cette sonorité initie de son côté une poétisation de la langue, tandis qu'elle supprime les noms de famille Rilke de son commentaire sur le nom, les voyelles de ce dernier I et E se retrouvent dans la description sonore. En allemand, cela donne le nom klingt kirchlich und kindlich und ritterlich. Des sons qui évoquent église, enfance, chevalerie. La phrase suivante. Ihr Name reimt nicht mit der Zeit. Votre nom ne rime pas avec l'époque. Est une réflexion lyrique sur le nom. La phrase se lit comme un iambe à quatre pieds et est déjà presque un poème en soi grâce à l'assonance de reimt et Zeit. Ihr Name reimt nichts mit der Zeit. Certes, les qualificatifs kirchlich, kindlich et ritterlich peuvent également être entendus pour leur contenu et renvoyer à des thèmes de la poésie de Rilke. Mais cela ne nous entraînera sans doute pas trop loin de lire également le texte des lettres du point de vue des caractères et des sons. Tsvetaeva elle-même souligne dans sa première lettre que la lettre Y, dont la date am 3 mai, le 3 mai, écrite par Rilke dans l'ancien orthographe, a déterminé l'état d'esprit de sa lecture. La première chose dont votre lettre Guima n'a pas soulevé, n'a pas posé, jeté sur la plus haute tour de la joie, fut le mot « mais » auquel, avec l'Y, vous avez rendu son antique noblesse. Tsvetaeva part du principe que Rilke libère la langue avec ses caractères alphabétiques et sa littéralité de son aspect usé et cru et lui attribue une nouvelle signification. Vous donnez aux mots leur sens premier, écrit elle à Rilke, et aux choses leur premier mot, valeur. Quand vous dites, par exemple, « großartig »,« grandiose », vous dites « de grande manière », von großer Art, comme on l'entendait à l'origine. Maintenant, « großartig » n'est plus que point d'exclamation vide. Tsvetaeva considère donc que Rilke n'utilise pas l'expression « von großer Art », mais seulement le mot en réalité galvaudé « großartig ». Pourtant, le langage poétique de Rilke restitue son sens littéral à l'expression. à la métaphore courante. Dans un complément à la première lettre rédigée le jour suivant, postdaté au 10 mai, jour de son arrivée prévisionnelle puis effective, cette attention à la langue porte de nouveau sur le nom de Rilke. Petite, la fille de Tsvetaeva avait contracté le nom Rainer Maria Rilke pour le prononcer Reineke. Reineke, c'est ainsi que sonnait pour sa rapide vie d'enfant Rainer Maria Rilke. La contraction accole les deux premières syllabes du nom Rainer à la dernière syllabe de Rilke. Ainsi raccourci, le nom fait penser au Reineke Fuchs, Reineke le renard, comme une sorte de compression enfantine du nom de Rilke en un personnage de fable. Dans la deuxième lettre de Rilke, on lit déjà 4 fois le nom Marina dans les premières lignes. Après la formule d'appel Marina Tsvetaeva, Rilke passe à l'écriture cyrillique lorsqu'il répète 2 fois Marina, Marina et transpose ainsi dans le graphisme de l'écriture une rencontre, une adéquation entre langue allemande et russe. Cette adéquation entre les systèmes d'écriture allemand et russe s'accompagne d'un effacement de la distance temporelle entre la lecture et l'écriture. Un effacement qui n'est cependant que mis en scène. Tsvetaeva avait bien déjà écrit et envoyé la deuxième partie de sa lettre le 8 mai. C'est du moins la date du cachet de la poste. Mais il l'avait postdaté au 10 mai, date de son arrivée prévisionnelle. Rilke saisit cette occasion pour installer le cadre d'un, je cite, « aujourd'hui éternel de l'esprit », au sein duquel a lieu la correspondance, une correspondance pas seulement au sens d'un échange épistolaire, mais aussi au sens d'une adéquation des consciences. Il fait converger l'empfang, la réception par Tsvetaeva des élégies de Duino et des sonnettes à Orphée avec le fait d'accueillir ou de recevoir Tsvetaeva dans mon cœur, dans ma conscience toute entière frémissant de toi. Après la troisième répétition du nom Marina, il passe de vous au tu et marque l'effacement de la distance spatiale en même temps que l'effacement de la distance temporelle. Marina Tsvetaeva, sind Sie nicht noch eben hier gewesen? Oder wo war ich? Es ist immer noch 10. Mai und seltsam, Marina, Marina, dieses Datum schrieben Sie vorausgeworfen in der Zeit, vorausgeworfen in den zeitlosen Augenblick, da ich Sie lesen sollte, über die Schlusszeilen Ihres Briefs. Am 10. meinten Sie, meine Bücher im Umwenden der Tür, wie man in einem Buche umblättert, in Empfang zu nehmen. Am gleichen 10. heute, im ewigen Heut des Geistes, heut, Marina, empfing ich dich in meinem Gemüt, in meinem ganzen Bewusstsein, das erbebt von dir, von deinem Kommen, als wäre dein großer Mitleser, der Ozean, mit dir Herzflut über mich hereingebrochen. Marina Tsvetaeva, n'étiez-vous pas ici tout de même, sinon où étais-je, moi? C'est encore le 10 mai, et chose étrange, Marina, Marina, c'est cette date que vous avez tracée, projetée dans le temps, projetée vers cet instant hors du temps où je devais vous lire au-dessus des dernières lignes de votre lettre. C'est le disque, vous avez cru accueillir mes livres en tournant la porte, comme on tourne les pages de livres. Et le même disque aujourd'hui, dans l'aujourd'hui éternel de l'esprit, aujourd'hui, Marina, je t'ai reçue dans mon cœur, dans ma conscience toute entière, frémissant de toi, de ta venue, comme si ton grand compagnon de lecture, l'océan, avait roulé vers moi, avec toi, flot de cœur. Lorsqu'il part de l'océan, Rilke renvoie d'abord à la remarque de Tsvetaeva qui dit avoir lu sa lettre au bord de l'océan, c'est-à-dire plus précisément à Saint-Gilles-sur-Vie. Il s'agit d'autre part du nom Marina excessivement répété par Rilke au fil de la correspondance pris dans sa signification littérale. L'adjectif latin marinus, dérivé de mare, la mer, signifie appartenant à la mer, sorti de la mer, comme, par exemple, la Vénus Marina, née de l'écume de la mer. Rilke était sans aucun doute conscient de cette parenté et de cette association d'idées linguistiques. On trouve dans les nouveaux poèmes, deuxième partie, le chant venu de la mer où figure l'ajout Capri, Piccola, Marina, c'est-à-dire Capri, petit port de mer. Et l'association de Marina et mer se trouve aussi dans l'élégie à Marina. Ven, Marina, via mea, nuvag, Marina et mer. De son côté, Tsvetaeva reconnaît dans son nom Marina une forme de Maria. Dans la dédicace à Rilke de ses poèmes à bloc, donc des poèmes déjà porteurs d'une dédicace dans leur titre, Tsvetaeva écrit les noms Rainer Maria Rilke et Marina Tsvetaeva de telle sorte que Maria et Marina se trouvent directement l'un au-dessous de l'autre. À cela, elle ajoute entre parenthèses « As-tu remarqué que mon nom est l'abréviation du tien ?» Entre les noms, il y a seulement un tiré que Tsvetaeva, empruntant à l'usage russe, utilise dans la correspondance également en allemand à plusieurs reprises dans le sens d'une copule, de sorte que l'on peut lire et comprendre que Rainer Maria Rilke et Marina Tsvetaeva, ou plus simplement dit Maria, Marina, Maria et Marina. Cette étude sur les noms mène à certains moments à la paranomase et à l'étymologisation et exige de la part de Tsvetaeva une identification à son vis-à-vis épistolaire. Les passages cités se réfèrent là au problème important de la signification des noms dans la correspondance et dans les poétiques de Rilke et Tsvetaeva. Car, par exemple, alors que le mot « table » renvoie à des nombreuses tables et n'est pas non plus tenu de renvoyer à une table précise, un nom et en particulier un prénom est un signe linguistique étroitement lié à sa porteuse ou à son porteur, et semble, en quelque sorte, n'appartenir qu'à lui ou elle. Le nom semble s'échapper du système de la langue, semble n'appartenir qu'à une personne, de manière singulière. Mais cette singularité du nom est illusoire, car un nom est également un élément du système linguistique. Cependant, on trouve dans la correspondance, dans les multiples répétitions des noms Marina et Rainer Maria, une poétique de la singularisation. Dans le langage des lettres, Les noms ne doivent dessiner que ces personnes singulières qui s'interpellent mutuellement et personne d'autre du même nom. Dans la lettre du 2 août, dans laquelle Tsvetaeva définit le nom Rainer entre guillemets comme un leitmotiv de ma lettre, elle explique: Rainer, j'ai reçu ta lettre le jour de ma fête 17-30 juillet, car j'ai une sainte moi aussi, bien que je me tienne pour le premier-né de mon nom, comme toi tu tiens. Le saint nommé Rainer s'appelait autrement. C'est toi qui es Rainer. Tsvetaeva admet le problème de la singularité seulement apparente du nom propre et tente de la résoudre en qualifiant les deux correspondants de premier ni de leur nom, Rainer et Marina, de porteurs véritables de leur nom. Avec pour arrière-plan cette poétique du nom, Rilke rédige le 8 juin 1926 son élégie à Marina. Le fait que Rilke dédie cette élégie tardive à Marina Tsvetaeva n'est pas inhabituel dans le contexte de son œuvre. Comme le constate Dieter Burdorf, en substance, Rilke est un maître de la dédicace. La dédicace d'un poème peut en outre s'appuyer sur une longue tradition qui, déjà à l'époque baroque, fait de la dédicace une partie intégrante de la tradition lyrique. Mais aussi autour de 1800, par exemple, dans les élégies dédicacées de Hölderlin, ou autour de 1900, par exemple, chez Drake. L'élégie de Rilke « Für Marina » pour Marina peut être qualifiée de poème dédicace selon deux aspects. D'une part, la dédicace doit être considérée comme une composante de la correspondance, pas seulement comme un ajout. De même que les lettres se meuvent au sommet du langage lyrique, à l'inverse, le poème s'adresse à une destinataire, für Marina, an Marina. Il commence, comme dans une lettre, par l'invocation du nom. D'autre part, l'intégration de la dédicace pour Marina dont le titre indique que cette dédicace n'est pas un supplément mais une composante du poème. Et c'est autour du nom Marina que les vers de Rilke gravitent. L'élégie à Marina de Rilke nous est parvenue en deux manuscrits, dont l'annexe à la lettre est sous forme de brouillon. L'édition de son œuvre complète constituée par Ernst Zinn et l'édition commentée Engel et Fülleborn, ainsi que les éditions de la correspondance, proposent le texte de l'élégie d'après l'ébauche trouvée dans la succession du poète. Dans ce qui va suivre, je citerai non pas le brouillon, mais la copie mise au propre et envoyée par Rilke à Tsvetaeva, qui, pour autant que je sache, n'existe pas jusqu'ici en version imprimée. La mise en forme du titre « Élégie pour Marina » est particulièrement importante dans le contexte qui nous occupe, car le supplément « pour Marina » a non seulement une lettre initiale écrite en minuscule et s'associe donc directement au mot « élégie », mais il est également séparé du premier vers par une barre oblique, une sorte de grosse virgule, et écrit en caractère un peu plus grand comme le mot « élégie ». L'expression « élégie » pour Marina forme alors une unité syntaxique et graphique. L'élégie de Rilke n'est pas seulement un poème destiné à Marina Tsvetaeva, ce qui ne laisse aucun doute. C'est aussi une élégie, un chant de lamentation pour la personne et plus encore pour le nom Marina. Tsvetaeva elle-même la nomme en allemand Marina Elegie, élégie Marina, dans une lettre à Anna Teskova. Le nom Marina est cité 8 fois dans le poème, 9 fois en incluant le titre. Et le premier mot du titre, élégie, titre écrit en caractère plus grand, répond dans la mise en forme graphique de cette copie au propre aux mots lit, chant, jubel, joie et klage, plainte, et des vers 10, 11 et 13. Eux aussi mis en relief par des caractères plus grands. Le poème est une réflexion sur la forme poétique élégiaque ainsi qu'une réflexion sur la nom Marina. Dans l'élégie pour Marina, Rilke s'en tient une versification hexamétrique, certes avec une certaine liberté métrique, mais finalement assez rigoureuse si l'on examine les élégies de Duino au rythme comparable. Ce faisant, la forme métrique des vers de la première strophe répond au propos central des pertes qui ne sont pas des pertes, puisque le conte est toujours déjà clos. Les 5 premiers vers disent: O die Verluste ins All, Marina die stürzenden Sterne. Wir vermehren es nicht, wohin wir uns werfen, zu welchem Sterne hinzu. Im Ganzen ist immer schon alles gezählt. So auch wer fällt, vermindert die heilige Zahl nicht. Jeder verzichtende Sturz stürzt in den Ursprung und heilt. Ces pertes dans le tout, Marina, ces étoiles qui croulent, ou que nous nous jetions vers quelle étoile. Nous ne la croissons pas, le conte est toujours déjà clos. Ainsi qui tombe ne diminue pas le chiffre saint. La chute renonçante choix dans l'origine et la guérie. Alors que les deux premiers vers sont des hexamètres complets, comprenant tous deux une césure Ponte mimer au troisième pied. Oh, die Verluste ins All, Marina, die stürzenden Sterne. Le troisième vers, qui dit: Im Ganzen ist immer schon alles gezählt, le compte est toujours déjà clos, est raccourci d'une syllabe à la fin. Et dans le vers suivant, il manque à l'hexamètre régulier un pied entier, qui en est en quelque sorte retiré et correspond ainsi, de manière extrêmement ingénieuse, au contenu du vers. Ainsi qui tombe ne diminue pas le chiffre saint. Ce serait manquer quelque chose que de n'interpréter cela que comme des simples effets métriques de Rilke. Le poème reflète surtout la forme élégiaque qui est également comptée là où quelque chose semble manquer. La première strophe du poème s'achève avec une pentamètre non seulement régulier, mais également entièrement dactylique, symétrique sous cette forme. Les deux mots sturz, stürzt, chute, joie du vers 5 forme l'axe central de ce reflet métrique. Et la virgule entre Sturz et Stürzt, d'abord écrite par erreur, puis raillée par Rilke, accentue encore plus la césure centrale pentamétrique. Jeder verzichtende Sturz stürzt in den Ursprung und heilt. La réflexion élégiaque sur la perte ou le renoncement, qui n'est finalement pas une perte, car tout reste en permanence, en équilibre, se poursuit aussi à partir du sixième vers. À partir de là, le nom Marina, d'une part, et d'autre part, la représentation même de l'élégiaque sont au centre. Les pertes, comme impulsion de la plainte élégiaque, qui semble intégrée dans un équilibre cosmique dans les premiers vers, sont de nouveau interrogées, tandis que le nom Marina est absorbé dans un nous élémentaire. Wäre denn alles ein Spiel, Wechsel des Gleichen, Verschiebung, nirgends ein Name und kaum irgendwo heimisch Gewinn, Wellen Marina, wir Meer, Tiefen Marina, wir Himmel, Erde Marina, wir Erde, wir tausendmal Frühling, wir Lerchen, die ein ausbrechendes Lied in die Unsichtbarkeit wirft. Wir beginnen's als Jubel, schon übertrifft es uns völlig, plötzlich unser Gewicht biegt zur Klage den Sang abwärts, aber auch so, Klage wäre sie nicht, jüngerer Jubel nach unten. Tout ne serait-il donc que je change du même ou transfère et nulle part un nom la place à peine d'un intime gain. Nous vagues, Marina et mer, nous profondeur et ciel, nous terre, Marina et printemps mille fois, ces alouettes que l'irruption du chant jette dans l'invisibilité. Nous l'entendons en joie, déjà il nous a dépassé. Et soudain, notre poids rabat en plainte le chant. Mais la plainte n'est-elle pas joie cadette, inversée? Les huit vers débutent et finissent par une question. En premier lieu, la prise de conscience discutée dans les vers précédents, im Ganzen ist immer schon alles gezählt, le compte est toujours déjà clos, et remise en question de manière critique. Tout cela ne serait-il que ein Spiel, Wechsel desgleichen, Verschiebung, jeu, change du même ou transfert. Vient ensuite la question centrale liée au titre dédicacé, élégie pour Marina. Wäre denn nirgends ein Name, ne serait-il donc nulle part un nom? N'y aurait-il donc aucune place pour un nom dont la didactique cosmique ébauchée au début du poème? Le poème donne à la fois une réponse positive et négative à cette question. Car les deux vers suivants implorent et mettent en relief un nom, le nom Marina, et oppose au point d'interrogation précédent trois points d'exclamation, dont deux d'entre eux ont été ajoutés par Rilke seulement dans la version au propre. Ces points d'exclamation renvoient aussi à l'interpellation insistante à Rilke qui débute la première lettre de Tsvetaeva. Rainer Maria Rilke, puis-je vous interpeller ainsi? La répétition du nom oppose ici un contraste net à la question résignée. Wäre denn nirgends ein Name? Ne serait-il donc nulle part un nom? Et la première exclamation, Wellen Marina, wir Meer, nous vagues Marina et mer, fait écho à la signification étymologique du nom Marina. Celle qui appartient à la mer et développe le vers à partir de la signification accordée au nom dans la langue. Cependant, le « nous » dont il est question à cet endroit est transposé dans le cosmos, dans les éléments « eau »,« air »,« terre » et semble ainsi échapper encore une fois à l'individualité. Les Verluste, les pertes, le nicht uns gehören, rien n'est à nous, le nicht-sein, le non-être sont déjà communiqués à la joie des individus s'interpellant mutuellement, dont la forme qui en émerge est l'amour. La joie de départ dont le chant voit en une plainte. Il y a présence centrale dans la poétique de Rilke que cette plainte va de pair avec une joie cadette inversée, comme il est dit dans le vers 13. L'élégie, dans sa définition traditionnelle triple, poème plaintif, amoureux ou didactique, devient aussi pour Rilke, compte tenu justement des pertes, un espace de la louange, comme cela est déjà le cas dans les élégies à Duino et les sonnettes à Orphée. Les deux mentions suivantes du nom Marina concernent donc aussi l'opfer, le sacrifice, l'entrückung, l'enlèvement et la zerstreuung, la distraction. Dans le dernier appel à Marina, la pleine tension, on aimerait presque pouvoir dire l'exigence de cette didactique élégiaque devient nette. Car ce qui est exigé ou dû invoquer, c'est un espace d'expérience du Untergang, déclin, et de la séparation qui s'empare littéralement du jeher, à jamais, que Tsvetaeva emploie dans sa première lettre pour expliquer le nom de Rilke. Liebende dürften, Marina, dürfen so viel nicht von dem Untergang wissen, müssen wie neu sein. Erst ihr Grab ist alt, erst ihr Grab besinnt sich verdunkelt unter dem schluchzenden Baum, besinnt sich auf jeher. Erst ihr Grab bricht ein, sie selber sind biegsam wie Ruten, was übermäßig sie biegt, ründet sie reichlich zum Kranz, wie sie verwehen im Maiwind, von der Mitte des Immer, drin du atmest und ahnst, schließt sie der Augenblick aus. Puisque le poème didactique veut installer un espace protégé initial pour les amants, qui n'ont pas le droit d'en savoir trop sur leur déclin. Ils sont exclus du centre du toujours, mais seulement temporairement, car ils s'effacent dans le vent de mai, ce qui, depuis le point de vue du centre du toujours, est de nouveau un motif de joie. Car la plénitude n'est pas donnée aux amants. Aucun des deux ne peut y contribuer, mais seulement les pas seuls au-dessus du paysage sans sommeil, qui termine le poème. Le nom Marina disparaît donc lui aussi complètement du poème, après sa dernière invocation aux côtés des amants dans le vers 35. C'est comme si le discours du poème s'exerçait lui aussi au renoncement du nom appelé si intimement dans la correspondance autant que dans le poème. Vu ainsi, l'élégie pour Marina est aussi une élégie au nom Marina, auquel renonce finalement le discours élégiaque lui-même au profit d'une tue à présent anonyme, un nom qui lui échappe en quelque sorte, bien qu'elle le conserve comme poème dans son ensemble. L'initiale R qui figure après le dernier vers de l'élégie renvoie pourtant encore une fois à un nom, quoique sous une forme raccourcie. À un air solitaire, si l'on peut dire, après les pas au-dessus du paysage sans sommeil du poème. Je vous remercie pour votre attention.
d'avoir apporté tout cet éclairage passionnant sur ces correspondances, sur ces poèmes et puis les liens qui ont entre les deux. Je ne sais pas s'il y a des questions. Sinon, vous aurez l'occasion.